Euradio présente Enquête d'Europe.
Depuis les événements du 7 octobre au Proche-Orient, les réseaux sociaux numériques servent aux Gazaouis pour témoigner. L'une de ces plateformes numériques, Quoring the Map, s'adresse plus particulièrement à la communauté LGBTQIA+. Née d'une initiative universitaire en 2017, cette cartographie participative a pour but de visibiliser les expériences et les vécus des minorités de genre et de sexe à travers le monde et ainsi sensibiliser à l'inclusivité. Mais cet outil technologique n'est pas le seul moyen de rendre visibles les revendications de genre. Peut-être avez-vous, chers auditeurs, déjà assisté ou entendu parler des drag shows. Voilà le sujet qui va nous occuper pour la prochaine demi-heure.
L'origine du terme drag est floue. Les premières occurrences sont situées dans la culture théâtrale britannique au milieu du 19e siècle. Peut-être vient-il du verbe anglais « to drag » qui signifie « traîner » comme on traîne derrière soi une robe. Peut-être aussi est-ce l'acronyme de « dressed as a girl » qui servait à désigner les hommes interprétant au théâtre et les femmes qui n'avaient pas le droit de monter sur scène.
Ce qui est sûr, c'est que le drag se caractérise par le détournement et le retournement, souvent parodique et avec extravagance des normes de genre. C'est-à-dire que des hommes, des femmes et des personnes non-binaires apparaissent aux yeux des spectatrices sous les traits et les apparats d'une fantastique créature féminine, masculine ou inclassable. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Jason, enseignant dans la vie civile, mais plus connu sous le nom de Giant Jasmine. Cette Miss Drag Reine 2019 et 2022 transmet son énergie sur la scène drag Queen Rennaise et ailleurs. Bonjour Jason, merci d'être avec nous.
Merci, ça fait plaisir.
Il a momentanément quitté son terrain de recherche qu'est Berlin pour retourner là où Pétrole des Amours a fait ses débuts. Man Thierry est en duplex depuis Lyon. Bonjour Man Thierry.
Bonjour.
Également étudiant, vous avez fait un mémoire sur l'histoire socioculturelle des drag kings en France et avez reçu le lauréat du prix des masters d'Institut du genre.
Enquête d'Europe est un podcast animé par les étudiants en Master 2 de Sciences politiques de l'Europe à Nantes Université. Aujourd'hui, l'émission est animée par Camille.
Héloïse, merci chers auditeurs d'être sur les ondes de radio.
La drague a une longue histoire de subversion et d'expression artistique. Notamment, le drag peut être considéré comme une expression de genre. Pour commencer, on peut brièvement ajouter quelques points de repère géographiques. Nous l'avons dit, la pratique du drag s'est d'abord développée aux États-Unis. Qu'en est-il de l'Europe ? Man Thierry, peut-on identifier un épicentre du phénomène en Europe ?
C'est pas vraiment un épicentre, c'est plusieurs centres. Je me suis principalement concentrée dans mes recherches sur le drag king et par exemple le drag king est arrivé à Londres dans les années 90, à Berlin dans les années 90 et en France plutôt dans les années 2000. Et il y a quelques influences entre les pays, mais c'est quand même plutôt des histoires nationales plutôt qu'une histoire européenne.
Et est-ce que peut-être il y a un endroit, une ville en Europe qui s'est démarquée plutôt que d'autres à ce niveau-là?
Londres et Berlin sont les plus grandes capitales du drag king et je pense du drag queen aussi en Europe. Et c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de lieux, le plus de performeuses de cette pratique.
Et aujourd'hui, Jason, vous diriez qu'il y a des pays ou des villes européennes particulièrement réputées pour avoir une scène drag dynamique ?
C'est vrai qu'on pense tout de suite à Londres, à Berlin, mais notamment Paris. Moi, je suis allé en Autruche, j'ai vu du drag là-bas. Je sais qu'en Espagne, c'est développé. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays, surtout dans les capitales.
Louis-Sébastien Mercier, un écrivain du XVIIIe siècle, pensait que le vêtement doit avoir un sexe. Plus proche de nous, Caroline Courbière ajoute que la mode et le style vestimentaire reflètent des contextes politiques et des lois. En clair, les tenues vestimentaires ont une signification politique et sociale et objective certaines idées qui renvoient au genre. Est-ce que dire qu'être une drag queen ou un drag king signifie montrer ce qui devrait être de l'ordre du féminin ou du masculin ou ce que ça ne devrait pas être ? N'est-ce pas reproduire des stéréotypes de genre, Man Thierry ?
Je pense que le drag, de base, c'est plutôt une subversion des normes de genre et une subversion de la binarité et une démonstration que n'importe qui peut porter n'importe quel vêtement, avoir n'importe quelle apparence physique et qu'au final, le genre, ça a pas tellement de sens par rapport à une représentation physique qu'on peut tous et toutes s'emparer de ces outils.
Oui, donc ce qu'on comprend, c'est qu'une robe ou un pantalon vont peut-être envoyer à des genres, mais c'est plutôt une construction et que c'est pas fondamentalement quelque chose d'inné ou de naturel et que la pratique du drag permet justement de remettre en question la perception de la masculinité et de la féminité et donc à revoir ce qui peut influencer les normes de genre plus largement. Donc nous avons l'honneur de recevoir un un drag king et une drag queen. Donc a priori, il s'agit dans les deux cas de performer, de jouer le genre. Même s'il y a des lieux où drag king et drag queen font le show ensemble, il semble aussi qu'il y a un fort cloisonnement entre ces deux modes de performance. Peut-être pouvez-vous, Mathiri, donner des repères chronologiques pour nos auditoristes sur les deux types de scènes. Depuis quand les scènes drag king et drag queen se sont développées en France et en Allemagne, puisqu'on le rappelle, votre terrain de recherche en master était essentiellement Lyon, mais également Berlin.
La pratique drag queen, elle a une histoire beaucoup plus longue que la pratique drag king en tant que telle. Parce qu'il y a eu de la male impersonation, ça veut dire du travestissement masculin sur scène depuis le 19e siècle, mais la pratique drag king en tant que telle, elle apparaît dans les années 90 aux États-Unis, alors que la pratique drag queen existait déjà depuis des décennies. Et en France notamment, depuis les années 20, il y a des drag queens qui ont peut-être utilisé ce nom plus tard, mais le drag king en tant que tel, même sur scène, en France, est vraiment apparu très tard, depuis 20 ans en fait, est présent sur scène. Et on a quand même des lieux qui sont différents selon les pratiques drag queen et drag king, vu que les drag queens sont là depuis plus longtemps, ont aussi en général investi déjà plus de lieux et ont plus de capital au niveau des lieux, au niveau de leur réseau, et ont aussi accès plus souvent plus d'argent et de ressources.
Jason, selon toi, est-ce dû au fait, enfin, est-ce que ouvrir la scène drag aux représentations masculines, ça prête tout le travail visant à mettre au premier plan les femmes? Et est-ce que ce ne serait pas, si je peux dire, voler la vedette aux personnages féminins, comme la réintroduction du patriarcat?
C'est une super bonne question. Moi, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est que ça dépend un peu de l'inspiration de chaque artiste. Si l'artiste a regardé RuPaul's Drag Race, par exemple, ils ont eu qu'une représentation féminine. Il y a que des drag queens dessus. Il y a pas des drag kings. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu que c'est dommage parce qu'il y a tellement, l'art de drag ne connaît pas forcément le genre que dans les boîtes. Et je peux parler de la communauté sereine, c'est qu'il y a vraiment une envie d'ouvrir les soirées drag à tous les artistes, que ce soit des drag kings ou les clubs queer ou les drag queens, bien sûr. Je pense que, bon, tout à l'heure on parlait des vêtements, pour moi les vêtements racontent des histoires, et que quand t'as plein d'artistes qui ont envie de raconter leur histoire, nous les artistes on n'est pas forcément très bloqués dans cette idée qu'on doit être forcément féminin et forcément masculin.
Donc si on comprend bien, la scène drag est essentiellement féminin, mais on observe des changements et une plus grande ouverture au drag king. Donc on va passer à la seconde partie de cette discussion pour essayer d'avoir un panorama du drag à travers l'Europe. Mathiri, est-ce que on pourrait faire une géographie de la scène drag, notamment avec des points de comparaison entre Lyon et Berlin?
Oui, donc à Berlin, on a une scène qui est beaucoup plus développée qu'à Lyon, par exemple, avec même des sous-scènes drag king et plusieurs espaces drag king et presque plusieurs communautés drag king au sein d'une même ville, avec beaucoup de lieux dédiés, que ce soit des bars, des clubs, des salles de spectacle. À Lyon, il y a quelques bars qui sont ouverts au drag king, mais où c'est pas non plus une pratique régulière. Et on a principalement une communauté drag king de quelques dizaines de personnes. Et on a de plus en plus de croisements aussi entre les scènes drag king et drag queen à Lyon et l'émergence des drag queen ou des drag queer, notamment depuis le Covid et la pratique du drag, du coup, principalement sur les réseaux sociaux pendant les confinements. Et donc, des hybridations qui ont été tentées et expérimentées à ce moment-là.
Et si on fait une cartographie de la pratique du drag avec l'homophobie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de drag là où il y a plus d'homophobie parmi la population, ou au contraire, est-ce qu'il y a plus de manifestations homophobes là où se développe le drag? En clair, est-ce qu'il semble y avoir un lien de causalité entre homophobie et pratique du drag? Mathiri.
Je pense que le drag, ça peut être une excuse à l'homophobie, mais que ça va pas renforcer l'homophobie d'une ville. Ça va juste être une cible pour les personnes homophobes, pour revisibiliser leur discours homophobe. Mais ces personnes homophobes trouveraient d'autres cibles s'il y avait pas de drag. Et je pense que le drag, est plus présent là où il y a des fortes communautés queer. Et nécessairement, il y a des plus petites communautés queer là où il y a beaucoup d'homophobie.
Jason, tu es d'accord?
Oui, je suis d'accord. Je pense que oui, il y a une communauté des gens LGBTQIA+, qui sont prêts à le faire. Ils sont en liberté de pouvoir s'exprimer comme ça. C'est clairement les endroits où on trouve le plus des shows drag, où les artistes peuvent s'exprimer, mais où il y a, dans les pays ou dans les villes, où c'est plus difficile, entre guillemets, enfin, il y a plus de violence ou plus des propos dits par les politiques ou dans les médias. Que ça influence forcément l'accessibilité des gens envers du drag.
Et Jason, comme on a dit au début de cette émission, tu es originaire d'Australie. Est-ce que le drag est courant là-bas ?
En Australie, oui. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas pu profiter de la scène drag en Australie parce que moi, j'ai quitté l'Australie en 2014 et j'ai commencé le drag en 2018. Mais je sais que ça existe bien là-bas. À Rennes, il n'y avait pas forcément un scène drag connu pour moi à cette époque quand j'ai commencé le drag. Moi, j'étais inspiré par une émission et je me suis lancé un peu tout seul et j'ai rencontré d'autres artistes et ça s'est développé de suite.
En préparant cette émission, John Jasmine, vous nous avez dit que vous aviez performé à Dublin et que vous aviez voyagé en Tunisie. D'après vos expériences, qu'est-ce qui caractérise la scène drag européenne par rapport à l'étranger ?
Ah, c'est une super question. J'ai aussi vu le drag aux États-Unis, donc j'ai un peu une vision des trois zones différentes. En Tunisie, je n'ai pas pu vraiment trouver la scène drag là-bas, vu le code pénal là-bas, c'est un peu sévère envers les gens de la communauté LGBTQIA+. Je crois qu'il y a 150 personnes qui sont mises en prison et ils n'ont pas les droits ils n'ont pas beaucoup de droits. Les forces d'ordre peuvent se permettre à faire plein de trucs envers ces gens. Donc, c'est une tristesse. Mais je sais qu'à Tunis, il y a des soirées films LGBTQIA+, il y a un petit commun. Mais la scène drag, je crois que ça n'existe quasiment pas du tout en Tunisie, au moins publiquement parlant. En Europe, je sais que c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de shows, beaucoup de bars. Les gens peuvent se mettre en drag plus facilement, même marcher à la rue plus facilement. Et aux États-Unis, c'est autre chose. C'est la liberté totale, même s'il y a de l'homophobie là-bas.
Pour nos auditeurs auditrices, Jean Jasmine a été élue Miss Drag Reine en 2019 et 2022. Bravo. Est-ce que votre personnage s'inspire et reprend des stéréotypes régionalistes, par exemple un accent, des tenues traditionnelles ?
Pas forcément l'accent, même si j'ai un accent vu que je suis anglo-australienne. Mais de fait, du drag, c'est forcément une sorte de réappropriation de quelque chose. Tu reproduis quelque chose, mais tu incarnes un personnage que tu as créé. Du coup, de la création de ce personnage, forcément, quelqu'un va voir des appropriations, que ce soit sur les habits ou la façon de parler, la façon de danser, la façon de défiler. Moi, je vois mon drag comme une réappropriation d'un personnage féminin, parce que moi, je suis homme cis de base. Mais je sais que je suis le produit de ma maman et mon papa. Et du coup, je sens que j'ai les deux genres en moi et j'aime bien pouvoir m'exprimer sans trop avoir peur des propos homophobes ou misogynes, ce genre de choses, parce que moi, je suis fier d'être le fils de ma maman et un frère de ma sœur.
Donc, pour nos auditoristes, un homme cis, c'est un homme qui est né homme et qui se ressent comme homme. Et voilà, pareil pour les femmes. Mantiri, est-ce qu'on peut dire que le drag est un art universel ou bien est-ce que le contexte politique national, voire local, joue beaucoup sur la pratique ?
Je pense que l'acceptation et les politiques LGBTQIA en fonction des États ou des régions influencent beaucoup la possibilité de la pratique, parce que il y a certains pays où on peut avoir des subventions par exemple pour faire du drag et d'autres pays où être visiblement LGBT c'est interdit, c'est puni. Donc forcément ça impacte le drag. Dans certains pays il peut y avoir du drag dans des contextes underground, mais en fait pour accéder à une meilleure visibilité, pour accéder à des ressources, des rémunérations, c'est sûr que si les personnes LGBT sont mieux reconnues et ont plus de droits dans un pays, ça facilite grandement la pratique du drag. Et ensuite il y a aussi une histoire de, l'histoire et les événements d'une micro-histoire du drag vont faire que le drag se développe ou non en fonction de la géographie, en fonction de la politique et aussi en fonction de hasard parfois.
Vous avez des exemples à nous donner là-dessus ?
Oui, par exemple, quand on regarde l'histoire française, c'est notamment Paul B. Preciado qui a ramené la pratique drag king en France au début des années 2000, après l'avoir observé aux États-Unis. Mais du coup, c'est surtout son initiative, l'initiative d'une personne individuelle qui était dans ce parcours de recherche autour du genre et des théories sur le genre à ce moment-là. Et la pratique serait peut-être arrivée 5 ans plus tard si Preciado n'avait pas fait ce voyage aux États-Unis à ce moment-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est très basé sur des coïncidences et sur des parcours individuels en fait.
Slay.
Ces dernières années, il y a eu en Europe des offensives législatives contre les droits LGBT, avec la loi hongroise de 2021 qui interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs, ou encore la résolution contre l'idéologie, excusez-moi, LGBT en Pologne, traduit par la création de zones dites sans idéologie LGBT dans quelques 190 municipalités polonaises. L'Union européenne avait réagi en suspendant les fonds aux municipalités qui appliqueraient ces mesures. Manthierry, on le rappelle, vous avez fait un mémoire sur l'histoire socio-culturelle du drag king en France, primé par l'Institut du genre qui a été créé en 2012 pour promouvoir les recherches des jeunes chercheurs, chercheuses sur le genre et la sexualité en France et au-delà, pour replacer dans le temps long. Est-ce qu'il y a eu des interdictions semblables par le passé ?
Il n'y a pas eu d'interdiction par rapport au drag en lui-même, mais on a remarqué l'année dernière, par exemple, il y a eu toute cette vague de l'extrême droite contre les lectures de contes par les drag queens et par quelques drag kings en France, et un gros backlash fasciste, en fait, contre la pratique drag en France. Et donc, c'est pas passé au niveau légal, mais il y a quand même des conséquences d'une fascisation de la France, quoi, et des personnes françaises.
C'est vrai, oui. J'ai entendu cette histoire, j'ai des artistes, des adeptes dans la communauté qui ont eu des expériences avec des fachos qui sont venus pour des événements où ils faisaient de la lecture envers des enfants. Mm-hmm. Ils ont dit des propos vraiment haineux et dégueulasses. Il y avait un procès de suite à Rennes, il y avait des artistes qui ont fait, qui ont porté plainte contre ce groupe, et il y avait quelqu'un qui était mis en prison. C'est un combat, ça c'est sûr. Mm.
Et pour prolonger justement et illustrer le poids politique d'un contexte local sur la manifestation de la scène drag, est-ce que vous-même, Jason, vous avez eu affaire à des interdictions ou des annulations d'événements drag? Ou alors justement, si on repense tout à l'heure à la question sur le lien entre l'homophobie et le développement de la scène drag, par exemple, un drag qui annule une représentation par crainte d'actes de violence?
C'est une bonne question. Je pense que de mes expériences, pour moi-même, j'ai eu beaucoup de privilèges. Et je pense que c'est un peu lié à le fait que je suis un homme cis. C'est plus, je pense plus à mes amis qui ont eu des soucis à la rue. Et je sais que c'est souvent les gens les gens qui sont trans ou qui sont drag king, je trouve qu'ils sont plus ciblés par les gens à la rue. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Mais la homophobie de la part des bars ou des boîtes, heureusement, je n'ai pas eu trop un souci avec ça. Quelquefois, il y a des bars qui disent « Ouais, un soirée drag, c'est pas trop dans notre RNA. » Mais du coup, j'insiste pas. C'est genre « Ok, bah, c'est vous qui perdez l'opportunité d'être avec des artistes incroyables. » Et on est là pour faire... La commu est là. Hein. On voit les marches de fierté. Il y a tellement de gens qui ont des sous à dépenser dans les bars. Ils ont envie de passer des bons moments. Du coup, c'est un peu tant pis pour eux. Mais parfois, il faut qu'on insiste et fait changer des idées aussi. Mais personnellement, moi, je n'ai pas eu trop de soucis. Mais j'essaie d'écouter d'autres personnes autour pour avoir une idée de leurs expériences aussi.
Donc, tu n'as jamais connu un bar qui a annulé une représentation par crainte d'actes de violence ou autre?
C'est plus... Mon critique, ce sera sur la qualité. Genre, parfois, une boîte, ils vont faire leur une soirée par an et c'est leur moment. Tu sais, ils ont envie de recruter de l'argent de la commu, et parfois, ils engagent un hôte ou quelqu'un qui est clairement misogyne ou qui est clairement transphobe, un truc comme ça. Et ça, c'est dommage. Donc, il y a beaucoup de boycotts, je vois, dans notre communauté. Les gens qui essaient de s'informer sur les lieux LGBTQIA plus friendly et les lieux qui sont là pour du pinkwashing ou de... Ils font ça juste pour gagner des sous.
Et aussi, tu animes régulièrement avec Anne-Marie Condom un bingo. Pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Et si organiser des bingos est courant dans le monde drag?
Ce sera avec plaisir. J'adore organiser ces soirées parce que c'est là où vraiment on sent qu'on a de la chance de pouvoir faire ça à Rennes avec Anne-Marie Condom, ma best Judy of drag. C'est ma meilleure copine de drag. On organise souvent 4 ou 5 événements par mois. Ça a grandi de ouf. Depuis 3 ans, on a commencé à faire ces soirées. On a plusieurs formats, mais les formats les plus connus, c'est soit le bingo, une soirée loto où les gens, ils ont leur carte bingo et on tire les boules, quelques boules à la main, et on raconte les numéros et tout. Et il y a des petits prix à gagner. Et on fait les présentations, les performances. Et l'autre format, ce sera le Caro Quiz. C'est un peu un blind test où les gens peuvent créer challenge et venir chanter le morceau. Donc, c'est des événements très joyeux avec, autour de la musique, mais on parle des choses sérieuses aussi et on essaie de booker d'autres artistes. C'est vraiment une joie de pouvoir faire ça à Rennes.
Et Manteri, vous avez un collectif à Berlin. Est-ce qu'il y a des bingos, des karaokés?
Les blind tests.
Voilà, les blind tests, comme ça. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont développées là-bas?
Alors oui, il y a des bingos, des quiz et tout ça, mais ça, c'est vrai que c'est plus dans la communauté drag queen que drag king. Nous, avec mon collectif Les Free Kings, on organise plutôt des événements, des soirées de performance et j'organise aussi en parallèle des ateliers d'initiation et de perfectionnement au drag king. Mais ouais, c'est vrai que les bingos, c'est pas tellement notre domaine de compétences.
Pour continuer sur cet aspect d'organisation et de financement des événements, à Bordeaux, par exemple, la municipalité a organisé des ateliers maquillage et financé des événements drag. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de semblable à Rennes, par exemple ?
Des ateliers de maquillage et...
qui soient organisés et financés par la ville, par
c'est
la municipalité.
Le soutien en fait de la maire de Rennes, est-ce que tu en as?
Oui.
Est-ce que, ou d'autres villes ou à ta connaissance ont des soutiens?
C'est vrai que quand je pense à le soutien de la mairie par exemple, c'est plus pour les marches de fierté ou mais ouais, j'aimerais bien. Ça existe déjà le concept, mais pas avec la mairie. C'est plus des marques de maquillage au NYX. Ils ont organisé des événements comme ça, ou des collectifs, des entrepreneurs qui organisent ça eux-mêmes. Mais une collaboration avec la mairie ou les gens pouvoir, c'est envisageable. Mais c'est comme quand j'ai parlé des boycotts, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se méfier, je pense, de ce genre de collaboration. Mais je pense que c'est tout à fait possible.
Et à Berlin, Manteri, en préparant cette émission, vous nous avez parlé d'une certaine récupération par les établissements culturels qui utilisent le drag pour attirer une nouvelle population, un nouveau public. Est-ce que il y a aussi des événements qui sont organisés, financés par la ville?
Ouais, je crois que il y a aussi du positif parce que c'est plus facile à Berlin notamment de faire des demandes de subventions, de demander des fonds pour organiser un événement centré sur le drag. C'est plus facile d'obtenir de l'argent comme ça et il y a beaucoup de lieux culturels qui, comme le drag est à la mode, qui s'emparent du drag pour faire du pinkwashing, mais qui aussi en fait donnent des bonnes conditions aux artistes drag. Donc c'est pas forcément que du négatif s'il n'y a pas de censure derrière.
Donc peut-être le pink washing, avant de conclure cette émission, c'est le fait de mettre en avant les communautés LGBT, le drag, pour se donner une bonne image sans vraiment forcément prendre au sérieux les revendications derrière, un peu comme le greenwashing dans d'autres contextes. Donc en préparant cette émission, nous avons discuté aussi des revendications politiques qu'il peut y avoir et qu'il y a même très souvent en arrière-fond de la pratique du drag. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer cette dimension. Toutefois, vous avez suggéré des lectures, des films et certaines chansons que vous pourrez, chers auditeurices, retrouver sur le site de radio et dans la description de cette émission si vous voulez approfondir cette question. Donc pour conclure, une dernière question, comment les médias, les responsables politiques et la société en général peuvent soutenir les artistes et mieux encore promouvoir le drag? Très brièvement, Jason.
J'aime bien cette question, je pense qu'il faut n'hésitez pas à aller liker les photos, commenter sur les photos des artistes, essayer de s'informer sur les différents types de drag, aller soutenir vos drag kings, vos drag queens, vos clubs queer locales, enfin de votre ville et les soutenir comme vous pouvez sur les réseaux sociaux ou aller soutenir en live, en show. Je pense que c'est une très belle façon de commencer.
Manteri,
Je pense que c'est bien de relayer la parole des artistes et pas juste d'écrire sur des personnes et de parler de son point de vue et de vraiment relayer la parole, de faire cet effort de donner de la place et de donner sa propre visibilité pour visibiliser les mots d'autres personnes et notamment des artistes drag, c'est important. Et aussi s'il y a les moyens de juste donner de l'argent, de payer les plus hauts tarifs quand il y a un tarif échelonné par exemple pendant les shows et de valoriser aussi le travail que c'est de faire du drag par aussi une rémunération.
Très bien. Dion, Jasmine, Pétrole des Amours, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation d'Enquête d'Europe. Héloïse, à toi les derniers mots.
Merci Camille. Et vous, chers auditeuristes, vous pourrez retrouver cette émission ainsi que les références de nos invités sur le site de radio et les plateformes de podcast.
Merci.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe, à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.